à 9h. Bonjour tout le monde. Mercredi aujourd'hui, le 17 mars. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Anne le matin. Bonjour Félix-Antoine Parent.
Bonjour Anne.
On va saluer nos amis de souche irlandaise dans la région. On sait qu'ils sont nombreux et nombreuses parmi nous. Donc, différents encore cette année. L'année passée, on a fêté ça à maison. On fête ça encore à maison cette année. Mais quand même, ces gens-là savent comment faire le party.
Oui.
Oh que oui. Pour avoir plein d'amis irlandais, je sais de quoi je parle.
Bon, ben tant mieux. Espérons qu'ils vont fêter en respect des distanciations
ben,
sociales.
C'est sûr et certain. Mais, hein, chacun dans leur bulle.
Ben oui, ben oui. Avec leur bonne Guinness.
Okay, oui, puis la petite bière verte, là, je vais aller ouais, m'acheter ça, du colorant alimentaire cet après-midi. Je vais en prendre une à leur santé au cours d'après-midi.
J'ai jamais bu ça, moi, une petite bière verte.
Non, ben ça goûte rien. C'est ben, juste un
bien.
Colorant, mais c'est ça.
Mais j'ai
tu,
jamais
tu
fait
le feras, c'est la langue verte.
Ah
ben,
oui, hein?
Oui, c'est vert. Félix-Antoine, avant de passer aux infos de 9h, on va parler de midi. On sait que c'est l'heure juste aujourd'hui. On va parler d'un sauve-feu, là.
Oui, entre autres, votre question de la Société de protection des forêts contre le feu. Il y a une restructuration qui est en cours, restructuration qui concerne la base de Maniwaki et la base de Val-d'Or. En fait, c'est qu'il y a au Québec 4 bases de la SOPFEU. Il y en a une dans l'est, une au centre et 2 dans l'ouest.
Okay.
Ce qui fait en sorte qu'on se dit, ben, logiquement, s'il y en a une dans l'est, une au centre, il devrait y en avoir qu'une dans l'ouest. Mais actuellement, il y en a 2. Donc là, ce qu'ils veulent faire, c'est regrouper sous une même direction régionale le territoire là, couvert actuellement par Maniwaki et Val-d'Or. Du côté de la SOPFEU, on nous assure qu'il n'y aura pas de perte au niveau des emplois, qu'il y a autant d'avions qui vont décoller, que la base, c'est une base importante qui dessert beaucoup d'incendies, qui couvre un grand territoire et qui combat de nombreux incendies. C'est une des plus actives au Québec. Et du côté de la MRC, on a des craintes. On dit, écoute, on ne croit pas que ça n'aura pas de conséquences. On ne sait pas à quelle ampleur la conséquence pourrait avoir, mais on dit, écoutez, si on fait une restructuration, ce n'est pas pour changer 4-30 sous pour une pièce.
Mm-hmm.
Si on change, c'est qu'il y aura des changements.
C'est
et
ça.
De la SOPFEU dit que c'est des changements administratifs. Mais on dit.
Il y a des jeunes personnes qui.
Ben, il y a celui qui était directeur.
Oui,
Ken Bérubé qui était directeur. Ça, c'est pas. La SOPFEU ne confirme pas. Ils disent, écoutez, oui, on a une personne qui était à l'emploi qui ne l'est plus. Mais c'est M. Bérubé. Ce serait la seule personne, là, pour l'instant, qui a perdu son emploi. Mais là, on dit qu'il pourrait en avoir d'autres. Puis, déjà, un, on dit que, tu sais, si on était directeur de la SOPFEU, M. Bérubé devait avoir quand même un salaire intéressant. Donc, plus on coupe, ben, plus c'est des pertes de salaire pour la région, que ce soit un emploi ou 10. Je pense qu'ils trouvent que le mal est fait. Bref, on va parler avec la SOPFEU. On parle avec Chantal Lamarche. J'essaie d'avoir une...
Chantal Lamarche qui a de la misère avec ça un peu, là. Hein?
Ben, c'est ça que je disais. Oui, c'est ça, la MRC puis la préfète là, qui sont pas ravis de tout ça. J'essaie aussi d'avoir le président du conseil d'administration de l'aéroport de Maniwaki, savoir ce qu'il en pense, parce qu'on sait que sans la SOPFEU, l'aéroport n'est pas viable.
Ça sert à quoi?
Ben, écoute...
Il y a
quand même des trucs qui se passent, là, des petits avions qui vont atterrir.
Oui.
Il y a peut-être quand même possibilité de faire des cours. Mais c'est vraiment le pilier central, c'est la SOPFEU. Donc, bref, on va en parler ce midi. On va parler aussi, j'ai réalisé plus tôt cette semaine, là, suite à plusieurs inquiétudes soulevées dans le milieu pour AstraZeneca, le vaccin. J'ai parlé avec quelqu'un de la santé publique, là, Carole McHenry, la docteure Carole McHenry.
Oui, bien connue chez
nous. Ben oui, c'est ça, elle vient du coin.
Oui.
Donc,
Irlandaise, d'ailleurs.
Ah oui?
Ouais.
Bon, tu vois, tout est dans tout.
Oui.
fait que là, c'est ça. Elle nous a dit, écoute, moi, j'aurais pas de crainte à donner ça à toute ma famille. Grosso modo, c'est ce qu'elle a dit. Écoute, il n'y a pas de crainte. Elle dit oui, il y a
Carole
eu des gens.
Carole le dit, sans crainte avec ça.
Ben, c'est ce qu'elle dit. Fait que, bref, on vous diffuse tout ça ce midi. Peut-être d'autres choses aussi.
Okay.
C'est une émission d'actualité.
C'est
il y a peut-être
ça.
D'autres, qui peut d'autres choses
dans
qui vont
minutes.
S'ajouter. C'est ça.
Parfait, Félix-Antoine. Dis-moi si je me trompe, là, j'ai oublié de te demander comment on fait la prononciation.
Fjordland
Exploration,
ouais.
C'est ça?
Oui, oui.
Tiendra un projet d'exploration minier dans la vallée de la Gatineau.
C'est exact. D'ici les prochaines semaines, l'entreprise Fjordland Exploration effectuera de l'exploration minière sur le site de la mine Renzi au nord-ouest de la ville de Maniwaki sur le territoire non organisé du lac Pitonga. L'entreprise britano-colombienne a obtenu les droits exclusifs de chercher toute substance minérale sur le territoire avec objectif là, de trouver du nickel. Il ne s'agit pas en fait du premier projet d'envergure pour l'entreprise qui a récemment là, entamé divers projets miniers au Manitoba et à Terre-Neuve et Labrador. Notamment, on écoute le président de Fjordland Exploration, James Tuer.
Fjordland est une entreprise qui existe depuis déjà plusieurs années. Récemment, nous avions deux projets axés sur la recherche de nickel. Dans les derniers mois, nous avons acquis l'ancien projet de la mine Renzi près de Maniwaki. Assurément, il y a du nickel sur le territoire. Ce matériel est une pièce maîtresse pour la création de batteries qui propulsera la nouvelle économie, l'électrification du réseau routier, les voitures électriques. Notre entreprise croit que ce matériel amènera une précieuse contribution aux générations futures.
Les travaux devraient débuter sous peu. Entre-temps, James Tour affirme avoir engagé une équipe de géophysiciens pour entamer une première étude aérienne. Ce dernier invite les Val-Gatinois à garder l'œil ouvert.
Nous aimerions arriver le plus rapidement possible, découvrir les gens de votre région. Je m'attends à pouvoir le faire dans environ un mois. Entre-temps, nous avons engagé l'entreprise Geotech pour qu'elle mène un programme d'enquête aérienne. Vous allez probablement apercevoir un hélicoptère dans le coin prochainement. Il effectuera plusieurs allers-retours en tentant de détecter des ondes électriques qui pourraient peut-être indiquer la présence de nickel dans certains secteurs.
Le président de Fjordland Exploration indique qu'il désire rencontrer les communautés algonquines et les résidents de la vallée de la Gatineau. James Tour estime que le projet ne sera pas possible sans l'accord et le soutien de la population de la région. Par ailleurs, il indique avoir besoin de travailleurs et d'entreprises de la région si les recherches de nickel sont concluantes. Mentionnons que l'ancienne mine Lac Renzi est située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la route 117 au niveau du kilomètre 294. Elle se trouve sur le territoire de la pourvoirie Poirier. L'exploitation de cette mine de nickel et de cuivre a lieu de 1969 à 1972. CAGA FM est en attente de commentaires dans ce dossier.
Et la collègue de Compost débute demain jeudi à Higgins-Sud.
C'est exact. Les municipalités de la vallée de la Gatineau ont débuteront prochainement la collecte du compostage et pour Higgins-Sud, c'est demain que ça débute. La municipalité a signé une entente avec Transport RLS qui a déjà la charge de la collecte des déchets et du recyclage. Le maire d'Higgins-Sud, Neil Gagnon, demande aux citoyens d'être performants au niveau du compostage pour ainsi faire baisser les coûts pour le ramassage des ordures.
Nous, on vient de signer un contrat avec le contractant qui était actuel, qui faisait le ramassage de nos vidanges et puis du recyclage. Puis ça va donner un coût par porte de 74 et 22. Je sollicite les gens de Higgins-Sud à d'être performants au niveau du compost. Plus on va composter, moins qu'on met de vidanges domestiques. Dans le fond, nous, on paye à pesanteur. Alors, si on peut baisser cette pesanteur-là en faisant le compostage, c'est des coûts de moins qu'on va avoir dans l'avenir.
Comme d'autres municipalités, les membres du conseil ont pris la décision de réduire le nombre de collectes de déchets pour faire plus de collectes de compost. Écoutons à nouveau Neil Gagnon.
Au lieu de collecter les vidanges à tous les semaines, comme à l'habitude, durant l'été, on va ramasser à tous les semaines le compost, mais les vidanges vont devenir aux deux semaines. Si tu fais ton compostage, ton recyclage, naturellement, ça baisse les déchets domestiques, donc ça va être suffisant aux deux semaines. On pense aux viandes, aux os, ces choses-là, on peut le mettre dans le bac brun maintenant, donc c'est plus complet comme compostage, là.
Le maire Gagnon précise qu'il y avait déjà plusieurs résidents qui effectuaient du compostage et souhaite que cette pratique devienne régulière pour la majorité de ses citoyens.
On va à Messine avec l'École Sainte-Croix qui contribue financièrement à un projet de collation du côté de la municipalité.
Oui, il y a les enfants qui fréquentent l'École primaire Sainte-Croix de Messine qui auront de nouveau accès à des collations santé en vertu d'une entente intervenue entre des professeurs de l'école et la municipalité. Les élus ont résolu de reconduire le soutien financier de 100 $ par mois offert depuis l'an dernier à l'École primaire Sainte-Croix. Le maire de Messine, Ronald Cross, rappelle le contexte dans lequel ce projet de collation santé a été mis sur pied.
On avait eu des vous-dire là-dessus qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas trop bien nourris en arrivant à l'école. Ça fait que j'ai rencontré quelques professeurs d'école de l'École Sainte-Croix de Messine. Et puis, on est arrivé à la conclusion que la municipalité va commanditer des repas à ces jeunes-là.
L'aide financière octroyée par Messine a été déterminée en fonction des besoins évoqués par les enseignants de l'École Sainte-Croix. Ce sont les enseignants qui sont responsables de l'achat et de la préparation des collations santé.
Belle initiative. Merci.
Oui, il y en a quelques-unes du genre, d'ailleurs, à Messine et d'autres municipalités également.
Ouais.
Mais il y a, puis on en reparlera, ils ont aussi reconduit, il y a un programme pour les couches lavables. Les familles qui veulent avoir, qui ne veulent pas utiliser des couches jetables. Nous, à la maison, c'est ce qu'on a, des couches lavables, réutilisables.
Oui,
c'est ça. Donc, on nettoie le tout.
Oui, c'est ça. Mais le projet, c'est quoi à Messine?
Bien, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont justement les couches lavables. Si tu achètes des couches, tu peux te faire redonner jusqu'à 100 $ c'est 50% des coûts de la facture jusqu'à concurrence de 100 $ Puis ils ont aussi un programme d'initiation au golf. Ben, ils ont un beau golf du côté de Messine, ils aident à payer les cours pour les jeunes, donc pour créer de la relève pour le golf. Donc, c'est toutes des belles initiatives qui attirent les familles. Je pense que ça fonctionne. Il y a beaucoup de jeunes familles à Messine.
Parfait, Félix-Antoine. On se parle à 9h30 du bulletin de 10h.
C'est un rendez-vous.
Merci.